Je vous proposerai un moment de recueillement devant le Seigneur. Ô notre Dieu, toi que nous pouvons vraiment appeler notre Père en Jésus. Nous sommes au soir d'une journée et nous voudrions la terminer vraiment en ta présence, tout près de ton cœur. Nous voudrions entendre ta voix. Nous voudrions être comme Jésus et quand il était sur la terre et qu'il aimait se rendre à l'écart pour t'écouter, pour parler avec toi, pour te remettre toutes choses. Lui qui voulait manifester pleinement le visage du Père, à un tel point qu'à la fin de sa course, il pouvait dire « Je suis depuis si longtemps avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. » Oh, nous voudrions vraiment être dans ce monde, pour le peu de temps que nous y passons, un reflet du Père des cieux, de ce Père de gloire, de ce Père de sainteté, de justice et d'amour, de ce Père plein de patience et de miséricorde. Nous voudrions parler des Pères, mais comment en parler si nous ne connaissons pas le Père? Et nous voulons ce soir, très simplement, te demander, ô Jésus, de nous révéler par ton esprit le vrai visage de ton Père. Toi qui as pu dire, après la résurrection, à Madeleine, « Je monte vers mon Dieu, qui est aussi votre Dieu, vers mon Père, qui est aussi votre Père. » Et nous voudrions être des pères pour les enfants que tu nous as donnés, que tu nous as confiés, qui sont des trésors uniques, quel que soit leur caractère, que nous puissions vraiment les accepter comme ayant été créés par toi, car c'est toi qui donnes la vie. Et puis tu nous as dit aussi que c'est toi qui nous formais. Et si nous voulons former nos enfants comme père et mère, nous sentons que nous avons d'abord besoin d'être formés par toi, de retourner à l'école, de nous recycler pour employer un mot du jour. Et notre attente ce soir est en toi, renouvelle-nous. Tu vois peut-être que chacun est un peu fatigué de cette grande journée. Journée de lumière, journée de chaleur, journée aussi de fraîcheur dans l'eau pour certains. Que ta grâce soit avec nous, que tu veilles sur tout ce camp, sur les enfants, les petits qui sont déjà peut-être sous les tentes ou qui y seront bientôt. Que tu nous protèges et que nous ayons de la joie ensemble dans la communion fraternelle et dans l'amour qui nous recrée en Jésus. Amen. Mes bien-aimés, comme vous le savez, le thème général de cette semaine du camp familial a été intitulé « Les œuvres de la foi ». Et ce soir, 5 juillet, eh bien, avec les enfants, nous avons pu voir les œuvres de la foi chez les parents de Moïse. C'est quelque chose qui m'a frappé. Avec les enfants, on ne peut pas allonger beaucoup, mais je crois que nous pouvons voir ce qu'il est dit dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, des parents de Moïse qui ont vécu des heures extrêmement difficiles, car il était question de la vie ou de la mort d'un de leurs enfants, c'est quelque chose. Et vous qui êtes parents, vous savez par quel moment on passe quand la vie de l'un de nos enfants est en jeu. Eh bien, en quelque sorte, oui, chez les parents de Myriam et d'Aaron, eh bien, il y a eu un exercice de foi terrible. Et je le rappelle en lisant le chapitre 11 des Hébreux, il est dit au verset 23e, « C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par qui ?» Par ses parents, il n'est pas dit par sa maman, hein, ou par son papa, mais ils étaient d'accord. Et c'est une question essentielle dans le mariage, de prendre des décisions ensemble. Il y a beaucoup de ménages qui ne vont pas, même chez les chrétiens, parce qu'il y a cette idée, ou bien c'est l'homme qui décide, il n'en parle pas même à sa femme, tout en étant chrétien, et il met sa femme devant le fait accompli. La femme apprend la chose. Ça ne doit pas se passer comme ça. Je parle de parents authentiquement chrétiens. On fait les choses ensemble. On cherche à être d'accord. Et voyez-vous, c'est ça que je dis. Il vous faut être des hommes et des femmes qui lisent pas seulement des portions de l'écriture. C'est très bien, il y a des systèmes qui sont en vigueur pour lire des portions de l'écriture, des portions quotidiennes, n'est-ce pas? Mais si vous vous en restez là, vous n'aurez jamais une vision complète de l'écriture. Et puis vous risquez de devenir sectaire, parce que vous allez prendre le texte du jour, et puis vous allez en faire votre viatique, et puis vous allez prendre des décisions d'après ce texte. Mais il y a peut-être d'autres textes qui viendraient l'éclairer, et que vous n'avez pas lu. Il faut absolument qu'on apprenne à lire la parole depuis la première page à la dernière page. Ce qui n'empêche pas vos lectures quotidiennes, hein. Mais c'est que de cette manière-là que vous verrez l'unité de l'écriture et que vous n'isolerez pas, ce qui se fait si souvent, un verset et on l'isole et on en fait une doctrine sectaire. Il faut toujours lire la parole à la lumière des autres versets, ce qu'on appelle l'analogie de la foi. Et je veux me laisser conduire par le Saint-Esprit qui va structurer notre message ce soir. Mais je vous lis ce verset 23. « C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. » Il y avait donc un ordre. Alors on se dit, mais je voudrais savoir quel était cet ordre. Alors, prenez maintenant le chapitre 2 de l'Exode. Si vous lisez seulement le chapitre 2 de l'Exode, sans lire ce qu'il est dit dans l'Épître aux Hébreux, vous avez une autre vision un peu. Il est dit au chapitre 2 de l'Exode, « Un homme de la maison de Lévi, c'est une des tribus d'Israël, avait pris pour femme une fille de Lévi. » De la même tribu. Spirituellement parlant, nous pourrions dire un croyant prit pour femme une croyante. C'est là que vous devez bien comprendre. S'il y a tant de ménages qui ne vont pas, c'est qu'on a pensé, parce qu'on voulait absolument se marier, eh bien, j'ai eu encore ce cas la semaine passée, et j'ai eu des visites, et c'était spécialement pour me dire, moi je sors avec un non-croyant, puis le non-croyant était là, alors je pense que le Seigneur pourra l'amener au Seigneur. Alors si vous voulez commencer à fréquenter un non-croyant, alors que vous êtes une croyante, vous voulez fréquenter un non-croyant, et parce que vous l'évangélisez,
C'est une chose, oui. On ne peut pas ne pas avoir de contact avec les non-croyants. Mais si vous voulez aller plus loin, alors faites attention, gardez votre cœur, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car c'est de lui que sont les issues de la vie. Si tu sens que, bon, ben, il t'écoute, mais parce que lui, il pense à quoi? À ton Seigneur? Non, il pense à toi, tu es belle. Il pense que tu es une femme et que ça pourrait bien marcher. Et puis il te fait des promesses. Il te dit oui, ben, je viendrai à ton camp ou bien je viendrai à tes réunions une ou deux fois. Et puis je te laisserai la liberté, etc. Vous savez comme nous sommes les hommes, nous sommes des menteurs. Il ne faut pas te nous croire. On raconte toutes sortes de choses quand on veut quelque chose, quand on désire quelque chose. Que Dieu soit vrai, dit l'Écriture, et tout homme menteur. Alors, ne vous laissez pas piéger, hein, parce qu'on vous fait toutes sortes de promesses. Puis après, une fois qu'on a eu ce qu'on a voulu, et c'est quand même quelque chose de très triste. À Paris, il n'y a pas si longtemps, une jeune fille me disait, on ne peut plus même sortir avec des gens du GBU. C'est pas parce que j'aime pas le GBU. Mais dès la première sortie, ils nous demandent de coucher avec eux. Mais ils ont levé la main, ils se sont levés, ils ont pris une décision pour le Seigneur. Mais ça n'empêche pas que quand on a faim, on mange. Quand on a soif, on boit. Puis quand on a un désir sexuel, on le satisfait. C'est passé dans les mœurs. Mœurs chrétiennes? Non, pas du tout. Alors cette jeune fille me disait, elle est mieux quand même, Naïm. Et certains la connaissent, cette jeune fille me disait, on ne peut plus même sortir avec des garçons qui se disent chrétiens. On pourrait quand même sortir, on pourrait se fréquenter, mais on a des conversations, on peut lire la parole de Dieu ensemble. Mais ce n'est pas tout de suite ça. Quelle horreur. Que le Seigneur nous parle, hein, parce que nous voulons être sérieux pour lui. Alors, regardez, on revient à notre exode. Hein. Un homme de la maison de Lévi prit pour femme une fille de Lévi. Ça veut dire quelque chose, c'est ça méditer, hein. C'est s'arrêter, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Et puis, vous cherchez. Ne vous mettez pas sous un joug étranger avec les infidèles. Quelle communion y a-t-il entre la lumière et les ténèbres, etc. Bon, ça c'est dans le chapitre 6 de la deuxième épître aux Corinthiens. Alors, verset 2. Cette femme devint enceinte. Et si on lisait le chapitre premier, on verrait dans quelle situation elle est devenue enceinte après le fameux ordre du roi. Vous voyez, verset 15 du chapitre premier, le roi d'Égypte parla. D'abord. Non, c'est avant. Hein. Verset 8. Il s'éleva en Égypte un nouveau roi qui n'avait pas connu Joseph. Et il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard. Empêchons qu'il ne s'accroisse et s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Piston et de Ramsès pour servir de magasin au pharaon. Mais plus on accablait le peuple, plus il se multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure épreuve. Ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux en argile, en briques et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'ils leur imposaient toutes ces charges. Et le roi d'Égypte parla aux sages-femmes des Hébreux, nommées Shifra et Lotua, et il leur dit, « Quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, laissez-le, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. » Voilà l'ordre hein, qui avait été donné. Donc cet ordre, c'était l'ordre du pharaon. Alors, je reviens au chapitre 2, verset 2. Cette femme devint enceinte et l'enfant un fils. Elle vit qu'il était beau. Elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de poix, et elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux, et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille du Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Va, lui répondit la fille du Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille du Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le-moi, je te donnerai ton salaire. Les allocations familiales. Fantastique. La femme prit l'enfant et l'allaita. Mais quand il eut grandi, elle l'amena à la fille du Pharaon. Et il fut pour elle comme un fils. Et elle lui donna le nom de Moïse. Car, dit-elle, je l'ai tiré des eaux. Hein. C'est elle qui l'a tiré des eaux. C'est elle qui l'a sauvé. C'est elle, enfin, qui en est la mère. Il est appelé le fils de la fille du Pharaon. Alors, quand vous lisez cela, ici, il semble que c'est que la mère, n'est-ce pas, qui a agi. C'est elle qui l'a trouvé beau. Mais, quand vous lisez dans les Hébreux, vous voyez que le père était d'accord. Tout s'est fait avec le Père, mais vous voyez, l'Écriture se complète, il n'y a pas de contradiction. Dans les Hébreux, il est dit que le Père aussi l'a trouvé beau. Ils virent qu'il était beau, donc il y avait accord entre le Père et la Mère. Mais, comme je vous l'ai dit en passant, si maintenant vous lisez le chapitre 7 des Actes, vous voyez qu'il faut aller à travers toute la Bible. Dans le chapitre 7 des Actes, où il est question encore de Moïse, dans le témoignage qu'Étienne rend devant le Sanhédrin, avant d'être lapidé, il est dit au verset 20 du chapitre 7, « À cette époque, donc l'époque du temps du Pharaon, naquit Moïse, qui était beau aux yeux de qui ?» Aux yeux de Dieu. Vous ne trouvez pas que c'est beau, ça? Il était beau aux yeux de la mère, dans le chapitre 2 de l'Exode. Il était beau aux yeux du père et de la mère, dans l'épître aux Hébreux. Mais ici, il était beau aux yeux de Dieu. Parce qu'évidemment, c'est facile pour une maman de dire que son enfant est beau. Ça me rappelle une histoire et qui est peut-être un petit peu scabreuse, mais j'étais chez des amis un jour en Suisse, un docteur et sa femme qui était doctoresse aussi, je m'étais beaucoup occupé d'eux, je les avais connus comme étudiants, puis après ils se sont mariés, puis ils ont eu un enfant, et c'était dans un canton suisse allemand. Alors je logeais chez eux parce que je faisais une conférence. Puis elle avait une petite fille, leur premier enfant. Oh, ça avait été toute une histoire parce que le père ne voulait pas d'enfant. Puis elle souffrait tellement qu'elle était venue me trouver pour que j'essaye de convaincre son mari, docteur, qu'il permette qu'elle ait un enfant. Alors, j'y avais travaillé, d'une certaine manière. Non, mais c'est pour vous dire ce qu'on vient nous demander. La femme doctoresse vient me demander. Alors, elle avait une grande reconnaissance pour moi, mais voilà que quand je suis arrivé chez eux, cette petite fille avait une diarrhée terrible. Excusez-moi l'expression, mais ça arrive, hein, vous savez. Et alors, j'ai vu la maman, la doctoresse, longer son enfant, puis elle disait devant moi, oh Gaston, elle avait pourtant le plus beau derrière du monde. Mais ça, il est comme ça. Vous voyez, une maman, hein, ce qu'elle peut dire. Hein. C'est pas seulement que l'enfant est beau, mais même cette petite, elle avait le plus beau derrière du monde. C'est des histoires, oui, que j'ai vécues, mais c'est vrai de vrai, ça. Alors, vous pouvez, il était beau aux yeux de Dieu. Il était beau aux yeux de Dieu. Moi, j'aime la Bible parce que c'est réaliste. Puis on ose parler de tout, n'est-ce pas? Il n'y a pas de tabou dans la Bible, mais tout est sacré. ça se fout, Poutine. On l'a vu avec le cantique des cantiques, on peut parler de tous nos membres, il n'y a pas de tabou, mais tout est sacré. Et la lecture de la parole, elle sanctifie nos pensées. Mais et c'est vivable, quand on lit la parole, quand on la mange, quand on s'en nourrit, eh bien, on est des gens avec qui on peut vivre et ne pas s'ennuyer. Hein. Alors, à cette époque, naquit Moïse, il était beau aux yeux de Dieu, et il fut nourri 3 mois dans la maison de son père. Vous voyez quand même qui était le patron ? C'était le père, dans la maison de son père. Et quand il eut été exposé, vous savez ce que c'est, être exposé, c'est être jeté dans le fleuve, le Nil, la fille du Pharaon le recueillit et l'éleva comme son fils. Et Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Eh bien, j'ai simplement souligné que notre thème, c'était les œuvres de la foi. Mais si vous voulez méditer là-dessus, eh bien, vous voyez que ça n'a pas été simplement la foi de croire qu'il y a un Dieu qui donne la vie, mais à la naissance de l'enfant, il a fallu prendre des décisions, et l'œuvre de la foi, ça a été de le cacher. Un premier point, on a caché l'enfant pendant 3 mois. Mais au bout de 3 mois, il a fallu prendre une nouvelle décision. C'est pourquoi il est dit que le juste vivra par la foi et pour la foi. C'est sans cesse une nouvelle foi, une nouvelle décision. C'est pour ça que nous devons vivre au jour le jour, comme on le chante dans le Québec, un jour à la fois. Un jour à la fois, ne vous inquiétez pas de demain, au jour le jour. Alors, ensuite, au bout des 3 mois, eh bien, la foi donne à cette femme l'idée de ce coffret de jonc qui va permettre la survie de cet enfant. Mais il faut aussi de la foi, une fois que le coffret est fait, pour le donner à la petite à la petite sœur, puis lui dire, va le mettre dans le fleuve, dans le Nil. Et il faut de la foi dans cette attente. Est-ce que réellement ça va marcher? La foi, c'est pas la vue, mais on s'attend au Seigneur. Mais il y a une œuvre de foi. Ça ne suffit pas de dire j'ai la foi, il faut agir. La foi, elle se manifeste par une action dans le monde. Puis il fallait envoyer Myriam et croire que Myriam obéirait et croire que Myriam, tout en étant une jeune fille, serait assez sage pour intervenir auprès de la fille du Pharaon. Il fallait que la mère ait confiance aussi en sa fille. Est-ce que vous avez confiance en vos enfants? Faut-il leur faire confiance? Quand on leur donne une responsabilité, il faut savoir leur faire confiance. Et puis ensuite, il fallait que la maman, et là, de nouveau, c'était une question de foi, aille devant la fille du Pharaon, puis qu'elle croit qu'on allait vraiment le lui confier, cet enfant. Mais en même temps, c'est que c'était plus seulement son fils, mais c'était le fils de la fille du Pharaon. C'était pas drôle de l'élever. Et il y avait un contrôle qu'elle n'avait pas avant. C'est l'enfant de la fille du Pharaon, et je devrais le lui redonner, je devrais le rendre, je devrais un jour m'en séparer. Donc vous voyez, il faut élever son enfant dans le détachement. Il y a des parents qui ne peuvent pas élever leur enfant avec l'idée qu'un jour, selon l'ordre de Dieu, l'enfant quittera son père et sa mère. Ça, c'est dans l'ordre de Dieu, vous devez, et moi je connais des parents qui ne pouvaient pas admettre ça, qui auraient voulu garder leur enfant. On ne peut pas les garder. L'autre jour, il y a une femme qui a dit en pleine réunion, mais moi, j'aurais voulu que mon enfant ne sorte pas de mes entrailles. Alors, j'ai dû lui dire, vous auriez voulu être éternellement enceinte? Je l'aimais tellement, ce petit qui était formé en moi, je voulais le garder. Mais il est parlé de ça dans l'écriture, hein, des femmes qui auraient peut-être voulu garder leur enfant, parce que là, il était préservé. Elle a eu son enfant, mais à 20 ans, il s'est suicidé. Alors, quand vous savez son histoire, vous pouvez un petit peu comprendre ce qui se passait dans cet homme. Mais elle l'a dit devant tous, en pleine réunion. Il y a des drames, hein, dans les familles. D'ici moi, j'avais pu le garder, il ne serait pas suicidé à l'âge de 20 ans. Mais voilà, une fois qu'on a un enfant, il faut l'élever. Puis il faut l'élever dans d'autres idées que celles qui pourraient le conduire au suicide. J'ai pas à juger cette femme, j'ai pas à juger une mère, mais j'ai vraiment à prier, pour tous et à aimer. Alors, avant d'aller plus loin, je dirais encore une chose au sujet de ce matin. Ce matin au culte, vous avez remarqué que notre première lecture, c'était le début du chapitre 43 d'Ésaïe, hein, versets 1 et 2. Vous vous en souvenez? Puis, je dis cela pour les amis qui n'étaient pas là, pour qu'ils puissent un peu suivre ce qui a été vu. Nous avons parlé, après la lecture de ces versets, « Ne crains pas, car ne crains pas, ainsi dit l'Éternel, qui t'a créé au Jacob, qui t'a formé au Israël, ne crains pas, car je t'ai racheté, je t'appelle par ton nom, tu es à moi, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. » Vous voyez, Moïse a traversé les eaux. Hein. « Et les fleuves, ils ne te submergeront pas, il n'a pas été submergé. » Si tu marches dans le feu, tu ne seras pas brûlé et la flamme ne t'embrasera pas. Puis après, on a parlé de sept personnes que Dieu a appelées deux fois par leur nom. Il y en a sept dans l'Écriture. Et j'ai proposé ces sept personnes à votre méditation. Je le dis pour ceux qui n'étaient pas là, les sept double appel de la Bible, c'est Abraham, Abraham, sur le mont Morija. Jacob, Jacob, à Beersheba, quand il devait retourner en Égypte. Moïse, Moïse, derrière le désert du Sinaï. Puis ensuite, Samuel, Samuel, à Silo, quand il était enfant dans la tente. Puis, cinquième, Marthe. Marthe, c'est les paroles prononcées par Jésus quand Marie est venue se plaindre de... quand Marthe est venue se plaindre de sa sœur Marie. Puis après, on a vu Simon, Simon, l'apôtre, le grand confesseur de la foi, mais qui est averti doucement deux fois par le Seigneur que le diable avait demandé à cribler les disciples, mais que Jésus avait prié pour lui. Et puis le dernier, c'était Saul, 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 pourquoi me persécutes-tu? Et on a vu que Dieu nous connaît vraiment par nos noms. Et même avant notre conversion. Il y a des gens qui croient que Dieu s'occupe de nous seulement depuis notre conversion, depuis qu'on a pris une décision pour lui. Mais il s'occupait de nous bien avant, puisque c'est lui qui nous a formés dans le sein maternel et que c'est lui qui nous a donné la vie. Et alors, quand vous pensez à vos enfants, ça vous donne une grande confiance. Et ensuite, ce matin, après la louange et le repas du Seigneur, qui est la suprême action de grâce, ce que veut dire vraiment le mot Eucharistie, la suprême action de grâce, nous avons terminé notre culte par la lecture, vous vous en souvenez, de quelques versets. Et vous savez où je les ai lus ? L'esprit prophétique nous saisissant, mais je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. Qu'est-ce qu'on a lu pour finir? C'était dans quel chapitre? J'y avais pas même pensé. C'était au chapitre 43 d'Ésaïe, mais c'était un peu plus loin. Et on a terminé notre culte par ces versets du chapitre 43, et si vous vous souvenez des premiers versets, eh bien, vous voyez que c'est formidable. On a lu au verset 15, « Je suis l'Éternel, votre Saint, le Créateur d'Israël, votre Roi. Ainsi parle l'Éternel, qui fraya dans la mer un chemin et dans les eaux puissantes un sentier. » Qu'est-ce qu'on avait lu au début ?« Même quand tu marcheras par les eaux, je serai avec toi. » Eh bien, voilà. Le Seigneur avait frayé un sentier dans la mer. qui mit en campagne des chars et des chevaux, une armée de vaillants guerriers, soudain couchés ensemble pour ne plus se relever, anéantis, éteints comme une mèche. Et qu'est-ce qu'on avait vu ? Quand tu passeras par le feu, tu ne seras pas brûlé. Éteint comme une mèche. Et qui est-ce qui a été éteint comme une mèche ? Les Égyptiens, hein, qui les poursuivaient et qui allaient consumer Israël. Et alors, verset 18, et c'est là qu'était toute la force du texte, ne pensez plus aux événements passés. Ne dites plus, mais ça, c'était Israël. C'était Dieu pour Israël, la traversée de la mer Rouge. Ça, c'est les événements passés. Eh bien, Dieu vous dit, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas ? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Et puis, on a vu, les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert et des fleuves dans la solitude. Donc Dieu a pitié des bêtes. Dieu ne désire pas que les chacals et les autruches crèvent dans le désert. Et alors, si les chacals et les autruches vont glorifier Dieu, eh bien nous avons lu le verset 21, c'est pour cela, parce que c'est le message du camp, le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Et cela, je désirais vous le redire. Le Seigneur nous forme, et il est en train de nous former pour que nous devenions dans ce monde, dans ces derniers jours, où l'iniquité va en augmentant, un peuple vraiment à part, un peuple séparé, un peuple de vrais pères et de vraies mères pour leurs enfants, un peuple qui soit connu comme étant celui qui publie les louanges du Seigneur. Nous sommes dans les derniers jours, dans les temps difficiles, mais Dieu veut agir et je pense que dans ces journées, il va nous former pour que nous soyons ce peuple qui louera le Seigneur au travers de toutes les circonstances. Alors ce soir, nous allons laisser l'Esprit de Dieu et sa parole façonner nos vies en nous parlant des responsabilités et des privilèges d'un père chrétien. Mais quand je dis un père chrétien, un père authentiquement chrétien, parce que la plupart du temps, quand on remplit un formulaire puis qu'on vous demande de mettre votre religion, si vous ne mettez pas catholique ou protestant ou évangélique, vous mettez chrétien. Une multitude de gens mettent chrétien, hein, comme religion. Mais est-ce que nous sommes authentiquement chrétiens ? Vous vous souvenez qu'il y a seulement 3 fois le mot chrétien dans le Nouveau Testament. C'est à Antioche que pour la première fois les disciples ont été nommés chrétiens. Et qui est-ce qui a nommé ces gens-là des chrétiens ? C'est le monde. Le monde a reconnu ces gens qui s'étaient convertis au Seigneur, c'est-à-dire qui s'étaient détournés de leurs idoles du paganisme et qui s'étaient tournés vers le Seigneur, qui avaient quitté leur religion judaïque, qui était une religion légaliste, où il suffisait de pratiquer certaines choses pour être sauvé, et ça ne sauvait pas pour avoir réellement la vie. Eh bien, ceux qui s'étaient tournés vers le Seigneur, eh bien, étaient devenus des chrétiens. Le monde les appelait disciples du Christ, des chrétiens. Et quand Barnabas est allé depuis Jérusalem pour voir ce qui se passait à Antioche, qu'est-ce qu'il a dit qu'il a vu ? Il a vu quoi ? La grâce de Dieu. Mes amis, il faut que nous comprenions, on devrait voir la grâce de Dieu dans nos vies. La grâce, c'est quelque chose qui se voit. Est-ce que nos vies sont la manifestation de la grâce de Dieu ? Et pas seulement à certaines heures, mais on devrait pouvoir contempler la grâce de Dieu dans nos vies. Oh, c'est pas la gloire qu'on va contempler dans nos vies. Nous ne sommes pas des êtres glorieux, non. C'est pas la gloire. On est dans des corps d'infirmité et on peut voir nos infirmités, mais on peut voir aussi la gloire de Dieu. Même sur un aveugle, même chez un sourd, même chez un muet, on peut voir la gloire de Dieu. Même chez un paralytique, sur son lit, il rend gloire à Dieu. Il y en a qui me disaient, mais le Seigneur m'a béni en me reprenant les jambes, parce que mes jambes, quand je les avais, je courais dans le monde. J'allais aux vanités mensongères du monde. Et le Seigneur m'a pris par mes jambes. Vous savez, il n'y a pas que des révoltés parmi ceux qui souffrent. Il y en a qui voient la grâce de Dieu et qui, dans leur état même, eh bien, manifestent qu'ils sont heureux, non pas parce que les circonstances leur ont été favorables, mais qu'ils sont heureux parce qu'ils sont en relation personnelle avec qui ? Avec Dieu. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est tout mon bonheur. C'est mon bien. Et voyez-vous, c'est cela qui doit devenir vrai. Je parle peut-être très fort de cela, mais c'est ça. Maintenant, n'est-ce pas, on fait une évangélisation superficielle. On veut convertir le monde à tout prix, le plus de gens possible. Et on a toute espèce de méthode pour faire cela. Eh bien, je ne veux pas décrier qui que ce soit, mais je vous dis l'œuvre de Dieu. Vous devez lire l'Écriture et vous verrez que la nature vous enseigne qu'il est question de jeter la semence dans le cœur, qu'il n'est pas question d'aller gratter pour voir tout de suite si ça germe, mais de faire confiance que la semence que vous avez mise dans un cœur, elle germera, mais à son temps, en son temps et à son heure. Parce que si on veut bousculer les affaires, on tombe dans le piège de Moïse. Moïse, il était convaincu que c'était lui que Dieu avait choisi pour délivrer Israël. Et il était sûr de lui. Il avait fait des études remarquables dans l'université égyptienne et il pensait que son peuple reconnaîtrait que c'était lui qui était qualifié. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a échoué misérablement et il s'est enfui au désert. Et il a été 40 ans berger des troupeaux de son beau-père. Et c'est quand il était ruiné, quand il était fini, que Dieu est intervenu pour l'appeler et lui dire, on va commencer quelque chose ensemble. C'est drôle ça, hein, quand on est mis à zéro. Mais voyez-vous, si vous n'avez pas compris, si vous n'avez encore rien compris, il faut que vous acceptiez d'être mis à zéro. Et quand vous êtes à zéro, alors le Seigneur peut intervenir. Parce que toute la gloire sera à lui. Et il ne peut pas donner sa gloire à un autre. Si vous avez bien compris cela, vous vous trouvez réconcilié à l'avance avec toutes les épreuves qui peuvent nous arriver, et il n'en verra pas, comme on le verra dans Jacques, au-delà de ce que nous pouvons supporter. Et même, ça deviendra pour nous un sujet de joie complète de passer par certaines épreuves. Et on dira, mais si on n'avait pas passé par là, on n'aurait pas fait ces expériences. Et je sais certainement, je suis sûr qu'on ne viendra pas me contredire, ceux qui ont passé par l'épreuve ou qui passent par l'épreuve. Et ils veulent reconnaître devant Dieu que, au fond, certaines de leurs épreuves ont été des grâces. De sa plénitude, nous recevons grâce sur grâce. C'est ce que nous enseigne la parole du Seigneur. Oui, être un père chrétien, authentiquement chrétien, c'est un homme où son enfant déjà voit la grâce de Dieu. Est-ce que nos enfants, est-ce que nous pensons à notre responsabilité de père chrétien ? Nous portons le nom de chrétien, mais les premiers qui nous voient, ce sont nos enfants. Alors, et évidemment, ils devraient voir en nous quoi ? Qu'est-ce qu'on devrait voir ? Le reflet de qui ? De Jésus, le reflet du Père. N'est-ce pas ? Le reflet de ce Père des cieux que Jésus est venu nous manifester. Il nous a montré le visage de son Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Le Fils n'était que dans la contemplation du Père, il était le reflet du Père et le resplendissement de sa gloire, l'empreinte de sa substance, toutes les perfections de Dieu brillaient sur la face du Christ. Et c'est cela que nous révèle l'Évangile. Et quand vous contemplez le Christ, eh bien qu'est-ce qui vous arrive? Vous commencez à le refléter, non pas par vos efforts, mais il est dit, nous tous qui contemplons à visage découvert la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. Et si vos enfants vous disaient, papa, c'est ça qui tu me fais penser? Au diable? C'est ça que votre enfant vous dit. À Jésus, n'est-ce pas? C'est cela. Et l'enfant, eh bien, il est sensible à cela. Alors, qu'il nous voit aussi avec notre compagne, si nous l'avons encore, aussi attentionné, comme Jésus avait pu l'être. On ne naît pas chrétien, on le devient, c'est la deuxième expression. Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien, Saul de Tarse, il n'était pas chrétien, mais il est devenu parce qu'il a eu une révélation de l'amour de Dieu, il a vu le Seigneur. Et depuis qu'il a vu le Seigneur, il n'y avait plus rien d'autre qui l'occupait. Vous me direz, mais lui alors, c'est pas un père, Paul. Oui, c'est pas nécessaire d'engendrer pour être père. Même si on est célibataire, on peut être un père. Et Paul a eu les caractères d'un père, il a eu beaucoup d'enfants. Et même si vous n'avez pas d'enfant, souvenez-vous, vous pouvez être un père. Avec les qualités d'un père, Paul était réellement, si vous étudiez sa vie, un vrai père. Et il écrivait des lettres à ceux qui s'étaient convertis par son ministère. Il leur écrivait des lettres absolument paternelles. Mon enfant dans la foi, comme il le dit à Timothée ou à d'autres encore. Et alors je dirais encore la troisième fois, vous le savez, où il est parlé du mot chrétien, c'est dans l'épître de Pierre, et nous sommes avertis que si nous sommes chrétiens, qu'est-ce que nous aurons? Des tribulations, nous aurons à souffrir. C'est dans le programme, mettez-vous bien cela dans le cœur. Si vous êtes authentiquement chrétien, vous aurez à souffrir. Ça fait partie du programme. Le Seigneur ne nous l'a pas caché. Il nous a dit que si nous voulons le suivre, nous devions prendre notre et aller là où il irait. Prends ta croix. Le Seigneur ne nous a pas trompés. Il ne nous a pas dit que nous aurions une vie facile. Il nous a dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Mais ça vaut la peine de passer par la mort que lui a connue pour que nous ayons un corps de gloire. Fidèle jusqu'à la mort. Alors, je voudrais seulement laisser sur vos cœurs deux hommes du temps des patriarches. Vous me direz, mais les patriarches, ils vivaient pas notre temps maintenant. Mais oui, mais ils ont vécu un temps difficile. Je vous parle d'Abraham, et je vous laisse, parce que vous connaissez toute cette histoire d'Abraham, mais je vous laisse méditer sur Abraham. Abraham, père d'une multitude, parce que je vous laisse ce verset pour que vous soyez bien assurés que c'est biblique. On peut appeler Abraham notre père, même si on n'est pas juif de naissance. Chapitre 4 des Romains, pour que vous ayez une référence biblique, et vous allez méditer vous-même, parce que moi je ne vais pas tout dire, vous allez méditer vous-même sur Abraham, votre père. Du reste, on y reviendra dans l'épître de Jacques. Il est dit ceci, au sujet d'Abraham. Verset 16. Alors qu'on vous dit tout le temps qu'il vous faut des initiatives, il vous faut un esprit d'initiative. Mais est-ce que Dieu vous a demandé de faire ce que vous êtes en train de faire? Même dans son service, il y a un tas de gens qui se tuent, soi-disant, à servir le Seigneur, et puis qui sont à bout de souffle, qui n'ont pas les moyens,
qui se plaignent de ceci, qui se plaignent de cela. Que de fils, de serviteurs de Dieu m'ont dit, mes parents, ils ont toujours tiré le diable par la queue. Quoi? Moi, ils étaient toujours dans la misère, ils étaient toujours en train de dire qu'ils n'arriveraient pas. Je vous dis pas qu'il faut devenir comme ces télé-évangélistes de l'autre côté, là, des États-Unis, qui vous disent que quand on est vraiment au Seigneur, on reçoit un tas d'argent, hein, et puis qu'on se fait des grandes tours, et puis qu'on monte sur la tour pour prier qu'on ait 8 millions. Moi, j'ai pas vu les hommes de Dieu faire des choses comme ça. J'ai vu les hommes de Dieu, quand ils priaient, ils n'allaient pas au haut d'une tour qu'ils avaient bâtie, hein. Ils se mettaient à genoux, par terre, comme ça, et la tête comme ça. Qui a fait ça? Et les autres, et pas question de faire tout ce bruit, tout ce bazar, toute cette mondanité qui va faire que vraiment le Seigneur est tellement écœuré qu'il va vomir tout cela de sa bouche. C'est quelque chose d'épouvantable. Mais en attendant que le Seigneur vomisse tout ça de sa bouche, eh bien il y a un tas de gens du monde qui ne veulent plus entendre l'évangile, qui ne veulent plus se convertir, parce que ces gens qui disaient ça, ils disaient, nous croyons à toute la Bible dit, la Bible dit, la Bible, c'est écrit dans la Bible. Et puis c'est justement, alors, avec la Bible, qu'ils démolissent tout le témoignage, et qu'ils vous disent, mais quand on est ministre de Dieu, je l'ai entendu cela, quand on est ministre de Dieu, on peut bien rouler en Cadillac. Les ministres d'État, ils ont des belles autos. Et nous aussi, nous pouvons avoir de belles autos. J'ai rien contre les Cadillacs, moi, si Dieu vous en donne une. Mais c'est pas une Cadillac que nous allons chercher. Le Seigneur avait un petit ânon. On va pas prendre un ânon, on va pas demander au Seigneur de prendre un ânon. Il nous demande d'être seulement son ânon à lui, hein, pour être porteur du Seigneur. Ça nous suffit, nous avons les jambes, bien, que nous puissions être les porteurs du Seigneur, allant de lieu en lieu, faisant du bien, et disant au Seigneur, du moment que tu nous donnes ce qui suffit, nous en sommes reconnaissants. Nous bénissons Dieu pour ce qui nous donne et nous lui rendons grâce. Et c'est comme ça que nous devons élever nos enfants. Nos enfants doivent savoir cela. Ils doivent savoir qu'un père, eh bien, il a des responsabilités matérielles. Les enfants l'ont dit. Les enfants nous ont dit qu'un père, il devait gagner la vie, hein. Il devait travailler pour apporter l'argent à la famille. Les enfants comprennent cela. Mais il faut que les enfants sachent que si le père travaille ainsi, eh bien, c'est parce que le Seigneur lui donne la force, c'est parce que le Seigneur lui donne la santé. Vous devez faire participer vos enfants à votre vie intérieure. Ne pensez pas que ça les chasse. Il faut que vos enfants prient pour papa au travail et qu'ils voient que vous croyez aux promesses de Dieu. Mais vous savez, un père, il a des responsabilités. Abraham a cru ce que Dieu disait. Et ce qui me frappe, c'est quand on lit le Nouveau Testament, il n'est pas question des péchés d'Abraham. Il n'est pas question des fautes d'Abraham, du père Abraham. Il semble que tout est allé très bien. Mais quand vous lisez l'Ancien Testament, vous voyez qu'il a fait, il a fait des grandes erreurs. Comme nous tous. Nous faisons des erreurs. Et alors vous pourriez, je ne vais pas vous en parler, mais parler des faux pas d'Abraham. Et ça a des conséquences. Dieu lui avait dit, sors de ton pays et de ta parenté, va dans le pays que je te dirai. Il a obéi, hein. Première partie, il a obéi. Il est allé. Mais tout à coup, dans le pays où il était, dans le pays de Canaan, il y a eu quoi? Une famine. Et qu'est-ce qu'il a fait? Sans ordre de Dieu. Dieu ne lui a pas parlé. Dieu ne lui a pas dit descendre en Égypte. Lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il y a la famine ici, mais en Égypte, il y a du pain. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Ce qu'un enfant disait, il faut partir, hein, comme Moïse. Les parents de Moïse, ils auraient dû partir, mais ils ne pouvaient pas partir. Les enfants ont déjà trouvé, il faudrait partir. Ben oui, il y a la famine. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Le Dieu qui vous a dit de sortir et d'aller à tel endroit peut vous entretenir, même en un temps de famine. On l'a vu dans l'année dernière en parlant de l'histoire de Ruth. Hein. Elimelech, à cause de la famine, est parti, puis il a perdu ses deux fils, puis lui-même est mort. Alors, comprenons bien, un père croyant qui ne se laisse pas guider par les circonstances matérielles, il a affaire avec Dieu. Dieu m'a mis dans cette situation, je m'attends à lui. Je sais qu'il va répondre.
Maintenant, Abraham dit, il faut quand même que j'agisse. Eh bien, on va descendre en Égypte. Puis qu'est-ce qu'il fait?
Mais il se conduit très mal. Il est marié, il a une femme qui est belle, même si elle est déjà âgée. Il lui dit, tu sais, ma chérie, je sais que tu es belle. Alors, écoute, j'ai tellement peur qu'on me tue pour te voler, pour te prendre. Dis ce que tu es. Quoi? Voilà un Abraham, homme de foi, qui emploie pour s'en sortir quoi? Le mensonge. Eh bien, mes amis, quand je pense qu'il y a tant de chrétiens qui mentent encore, vous devez avoir en abomination le mensonge. Et si vous voulez que vos enfants ne soient pas des menteurs, eh bien, qu'ils sachent que papa ne ment pas. Papa ne peut pas mentir. Papa ne mentira pas. Il peut vous croire. Vous avez renoncé au mensonge, vous avez dépouillé le mensonge. Et voilà vos responsabilités de père. Mais voilà notre brave Abraham, eh bien, il a menti, il a dit que c'était sa sœur. Et puis qu'est-ce qu'il a fait le pharaon, un autre pharaon? Et il l'a pris. Et il a fait du bien à qui? À Abraham, à cause de sa sœur. Il s'est enrichi, je pourrais vous parler de sept choses qu'il a reçues. Il a reçu des chameaux, il a reçu des ânes, il a reçu tout un bétail, du menu, du gros bétail, des serviteurs, des servantes. Voilà que notre Abraham, par sa femme, c'est presque du prosélytisme, il est devenu riche. Vous voyez, ça, c'est béni de devenir riche par un mensonge. Puis tout à coup, hein, il y a Dieu qui est au-dessus de tout ça. Et qui frappe le pharaon de terribles plaies parce qu'il a volé la femme d'un... Non, il avait pris la femme d'un autre. Évidemment, Abraham a été enrichi. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est remonté d'Égypte quand il a été chassé d'Égypte? Il y avait une servante, Agar. Il y avait la petite Agar, la petite servante, qui avait été héritée aussi par Sarah. Et puis comme les années passaient, puis que rien ne se produisait, eh bien, notre brave Sarah, elle a cru vraiment faire un acte remarquable en disant à son vieil Abraham, écoute-moi, faut plus y compter. Tu sais très bien que je n'ai plus ce que les femmes ont l'habitude d'avoir. Alors, prends la petite Agar. Qu'est-ce qu'il fait le pauvre Abraham? Il résiste? C'est difficile de résister. On est toujours les mêmes. Puis encore quand c'est sa femme qui vous propose une chose comme ça. J'ai dit, mais ça sera notre enfant. Parce qu'elle est notre servante, j'ai le droit de vivre avec moi. Elle accouchera tous les jours. Ça sera mon enfant. Vous comprenez? Ça arrange bien. Puis voilà notre pauvre Abraham qui se laisse faire. Pendant 13 ans, Dieu n'a plus parlé. Vous avez lu l'écriture? Moi, ça m'a frappé, hein. Pendant 13 ans, c'était le silence. Avant, Dieu parlait à Abraham. Et quand on fait certaines fautes, quand on s'écarte de la dépendance de Dieu, Dieu ne nous parle. C'est quelque chose. Et il l'a payé cher. Puis évidemment, Ismaël est né. Hein. Puis il a aimé Ismaël. C'était quand même son fils. Mais ça a été que des misères. Et finalement, qu'est-ce qu'a eu quand même l'enfant? Sarah. Il fallait qu'elle attende le dernier quart d'heure. Et puis qu'elle croit qu'une fois arrivée à zéro, Dieu interviendrait. Parce que c'est lui qui donne la vie. C'est lui qui nous a formés. Et ça ne dépend pas des menstruations. Ça dépend du Seigneur. Vous direz que je suis complètement idiot de dire des choses pareilles, que je suis anti-scientifique, tout ce que vous voudrez. Eh bien, peut-être, mais je crois qu'au-dessus de la science, il y a l'amour de Dieu qui surpasse toute science, toute intelligence, toute connaissance. Voilà, prenez-moi pour un fou, un illuminé. Eh bien, ça n'a pas d'importance. Je sais que mon Dieu, c'est lui qui sait faire cela, parce que je suis encore un homme qui croit au miracle. Je sais qu'on n'est pas éternel, mais je sais qu'il peut nous renouveler jusqu'à ce que notre tâche soit terminée et qu'on n'ait pas les jouets de la maladie ou des infirmités, mais qu'on est dans notre corps avec nos infirmités, avec nos faiblesses, pour qu'on n'ait pas à se glorifier comme Paul. Il a fallu l'ange de Satan pour le maintenir dans l'humilité. Alors qu'on peut se dire, mais quand on a vu le Seigneur dans la gloire comme lui, eh bien, il n'y avait plus de danger pour lui. Ben, c'est justement, plus vous êtes visité par Dieu, plus vous avez de grâce, plus vous êtes en danger. C'est vrai ou c'est faux? Que celui qui croit être debout prenne garde qu'il ne tombe. C'est toujours dans les moments où on s'est dit, oh ben, ça va bien hein, quand même. Spirituellement, je suis bien dans ma peau. Spirituellement, je me sens bien dans ma peau. C'est juste à ce moment-là qu'il y a le piège. C'est vrai ou c'est faux ce que je vous dis? Contredisez-moi. Nous faisons, on se ressemble tellement, hein, nous faisons tous cette expérience. Quand on se croit bien, on est tout près de tomber. Donnez gloire au Seigneur, dites-lui, si je ne suis pas encore tombé, ce n'est pas de ma faute. C'est toi qui m'as gardé. C'est toi qui as prié pour moi, parce que je serais bien capable de faire comme Pierre. Alors, vous serez secouru, vous serez soutenu, et vous serez béni. Et vous l'aurez quand même, votre fils. Ce sera Isaac. Et alors, comme père, Abraham a eu des conversations avec Isaac, vous méditerez vous-même là-dessus. Et l'autre homme que je voudrais vous citer, simplement, vous connaissez toute cette histoire, c'est Job. Job, c'était le temps des patriarches. Eh bien, Job, lui, il avait le privilège d'avoir combien d'enfants? 10. Un privilège, hein? 7, 6 et 3 filles, lisez le livre de Job. Il était béni, il était riche, il ne manquait de rien, il avait des serviteurs, il avait du bétail, du gros et du menu bétail. Et c'était un arabe. C'est pas un juif. C'était un arabe, et Dieu aime aussi les arabes, et nous devons y penser. C'est pour ça que nous devons croire aussi que Dieu peut sauver les mahométans, les musulmans. C'était un arabe, mais il avait la crainte de Dieu, et il y a des arabes qui ont plus la crainte de Dieu que des chrétiens. Eh bien, que Dieu nous parle, ce Job, il est un exemple de père. Quand ses enfants se réunissaient pour célébrer l'anniversaire de l'un d'eux, hein, il y avait 10 parents, eh bien, Job, il était toujours dans la crainte. Parce que quand on fait un trop bon repas, un bon festin, qu'est-ce qui arrive? Pour que ça digère, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut un peu l'arroser, hein. Puis quand on l'arrose, qu'est-ce qui arrive aussi? On risque de dire des choses folles, des choses légères, nos conversations. Et Job était conscient de cela. Il se disait, je ne voudrais pas qu'ils aient péché, mes enfants. Alors, il les réunissait. Il offrait un holocauste, un sacrifice. Et il priait pour ses enfants. Il se sanctifiait avec ses enfants. Et ses enfants savaient que c'était toujours ainsi. Job faisait toujours ainsi. Et vous connaissez l'histoire de Job. Il a eu toutes ses épreuves. Mais pour quelle raison? Parce que Dieu voulait encore lui apprendre à se connaître lui-même et lui donner un final. Une fois que lui aussi serait arrivé à zéro, il voulait lui donner le double de tout ce qu'il avait reçu. Eh bien, c'est là la vision que j'ai. Que vous deveniez des pères, et que moi, avec vous, je sois père et grand-père, tout ce que vous voudrez, et mais que nous soyons des pères, des grands-pères, comme Joseph, hein, qui avait ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants sur ses genoux. Puis qu'est-ce qu'il leur racontait? Les derniers jokes? Hein? C'est ça qu'on raconte à nos petits-enfants. Vous les faire rire? Non, c'est pas ça. L'arrière-grand-père, que c'est beau. J'ai encore le souvenir d'avoir été sur les genoux d'une grand-mère, je sais ce qu'elle me racontait, je sais ce qu'elle me disait. Je sais la foi qu'elle avait. C'est votre privilège, chère maman. C'est votre privilège, cher papa, si vous êtes encore ensemble, d'élever vos enfants pour le Seigneur et de vous souvenir que vos enfants seront une fois maman, peut-être, que vos enfants seront une fois papa. Et il faut qu'avant même l'âge de 5 ans, vous ayez pu leur inculquer ces semences de vie. Et vous verrez que vos enfants ne vous décevront pas. Prions. Dieu notre Père, nous voulons nous laisser conduire par toi et nous laisser imprégner par
les exemples de la parole. Tu nous montres que les hommes de foi, même comme Abraham, notre père, a eu des manquements. Mais il a su les reconnaître. Il a su s'humilier. Il a su accepter certaines souffrances. Et tu ne l'as pas abandonné. Et même, tu as pu l'appeler, malgré tout cela, ton ami. Celui qui cache ses transgressions ne prospérera point, mais celui qui les confesse et les abandonne obtient miséricorde. Nous sentons toute notre insuffisance, toute notre faiblesse à la fin de cette journée. Mais nous comptons sur ta parole, et nous comptons sur la puissance de ton esprit pour redire à nos bien-aimés ce que nous avons aussi si mal exprimé. Qu'il reste quelque chose de cette journée du 5 juillet 1987 dans tous les cœurs, le cœur des enfants, des plus petits, comme le cœur des parents, des mamans. Et pour ceux qui sont peut-être solitaires, qui ont connu ces infidélités dans la vie conjugale, je te demande de leur parler toi-même et de les toucher avec ta grâce parfaitement suffisante et de leur donner avec ton intonation le mot qui sauve, le mot qui libère, le mot qui console, le mot qui donne une espérance. C'est à toi que nous remettons la fin de cette journée, le début de cette nuit, la fin de cette nuit, la journée de demain, tous les moments que nous allons passer ensemble. Prépare-nous dans ton amour. En Jésus-Christ. Amen.